Alors, tout d'abord, je suis assez près. Ouais. Tout d'abord, je tenais évidemment à remercier les organisatrices et organisateurs de ce colloque, assez formidable à mes yeux, qui me donne l'occasion de parler de la fibromyalgie et de sa très mauvaise prise en charge médicale. Je suis assez loin, ouais, mais je ne peux pas faire plus près, là. Donc, cette fibromyalgie dont la prise en charge médicale est empreinte d'une histoire essentialiste de la douleur. Alors oui, pour me situer un peu, je suis politologue et j'ai jusqu'à présent travaillé sur la colonialité numérique et les rapports de domination qui régissent les relations entre État et population, entre État et entre population, surtout le terrain africain. Et je pense que ça a une importance sur mes réflexions par rapport à la fibromyalgie. Je souhaite aujourd'hui vous présenter un travail sur une maladie, donc la fibromyalgie, qui est méconnue, et interroger donc l'ignorance liée à cette maladie que je considère construite. Je vais vous en parler depuis une position particulière, celle d'être moi-même atteinte par cette maladie. Je vous propose en quelque sorte une analyse embarquée. Alors, qu'est-ce que la fibromyalgie ? Alors d'abord, donc, c'est une maladie de la douleur. On peut la nommer maladie de la douleur. Elle est méconnue, peu reconnue. Elle n'est pas du tout reconnue en affection longue durée par l'assurance maladie. C'est une maladie chronique en tant que telle, au sens où souvent on nous dit que la douleur, c'est un symptôme d'autres maladies chroniques. Or, là, ça y est, c'est prouvé depuis un certain nombre d'années que c'est une maladie chronique à part entière. Elle touche de 1 à 4% de la population, dans la majorité des cas, 90% de femmes entre 30 et 50 ans. Ramenée à la population française, en France, il y a donc 2 400 000 personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, dont 2 140 000 femmes. 2 140 000. Elle se caractérise, cette maladie, par des déficiences à la fois physiologiques, donc des douleurs sur tout le corps, de la fatigue, de la perte de mobilité, vous avez vu, des troubles du sommeil, des nausées, des maux de ventre, j'en passe, des troubles cognitifs, donc des pertes de mémoire, des troubles du comportement et de la concentration. Si vous avez entendu parler des 10, des YS, donc c'est dysphasie, dyspraxie, etc., on les a. Elles sont accompagnées d'émotions difficilement contrôlables, comme la peur, la colère, la tristesse, etc. Les savoirs sur cette pathologie sont réduits et concentrés dans le domaine médical. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'informations sur cette maladie, si bien que les différences de prévalence de la maladie, donc 90% de femmes, 10% d'hommes, sont le plus souvent expliquées par leur aspect physiologique. Donc, Iliana nous en a bien parlé, donc les hormones, même les chromosomes, les menstruations ou psychosociales, à savoir la maladie du stress, la maladie de la charge mentale, etc. Donc ce serait une maladie psychosomatique. L'algologie, donc, qui est une spécialité en médecine pour le soin de la douleur, est considérée par le corps médical comme une sous-médecine. Alors, moi j'ai entendu dire par un médecin généraliste, oui mais votre algologue, là, qu'est-ce qu'elle fait autrement ? C'est-à-dire que l'algologie n'est pas considérée pas à l'intérieur même du corps médical. Et la fibromyalgie, donc, est une pathologie considérée comme peu crédible, donc peu documentée. L'évaluation de la prise en charge intègre rarement une dimension de genre. Il y a des évaluations qui sont produites, je ne vais pas vous en parler là, mais c'est surtout qu'il n'y a aucune dimension de genre qui est intégrée. Globalement, la maladie souffre d'un manque de connaissances, de reconnaissance et d'un déficit de prise en charge. Alors on observe ainsi une forme délibérément construite d'agnotologie, tant la recherche médicale néglige certaines hypothèses. Moi, pour ma part, je fais l'hypothèse que les deux constats, forte prévalence féminine et disqualification de la maladie, sont très liés et que cette agnotologie s'explique par le fait que la maladie concerne avant tout des femmes. Pour caractériser cette anéthologie de genre, mon intervention se fera en trois points. C'est-à-dire que j'ai distingué trois dimensions dans cette anéthologie. L'essentialisme qui structure la relation de la médecine au corps des femmes, les impacts genrés des préconisations de soins par le sport, l'absence de prise en compte des savoirs des patientes. Enfin, j'apporterai, si j'ai le temps, quelques pistes d'alternatives à ces pratiques et théories. Alors, un petit point méthodologique. Mon analyse des relations entre médecins et patientes s'appuie sur une observation participante qui s'est déroulée entre septembre 2012 et décembre 2018 dans quatre centres d'évaluation et de traitement de la douleur en région PACA, à Toulon, à Aix-en-Provence, à Draguignan et Marseille, et à la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM du Var. Cette recherche s'est centrée sur la gestion, le suivi et l'évaluation de la prise en charge des patientes par l'assurance maladie et par les professionnels de santé. Le corpus repose sur des notes de terrain lors de consultations de malades, dont je suis, ou d'échanges avec les professionnels en milieu hospitalier ou à la CPAM. Ces données terrain complètent une revue de littérature portant sur des études relatives à la connaissance de la maladie par les médecins généralistes, à l'histoire de la relation des médecins aux pathologies et aux humeurs des femmes, et à leur adoption de poncifs transmis par les croyances populaires, qui consisteraient à penser que l'habilité que les femmes peuvent affabuler dès qu'il s'agit de leur santé, et que des douleurs sont jugées normales comme celles des règles ou de l'accouchement. Alors, la première dimension de l'anéthologie de genre est l'essentialisme qui structure l'ensemble des croyances adoptées par la médecine en matière de douleur. Elles sont héritées d'une philosophie ancienne du soin, selon laquelle les sexes sont banalement différenciés selon leur essence, féminine ou masculine, la biologie ou la physiologie, ce qui est inné et immuable, ce qui est considéré comme inné et immuable. Par exemple, les règles connaîtraient des contre-coups dans la vie quotidienne, dont l'incapacité à travailler ou à se marier. Des expressions telles que le retour d'âge, la totale, les bouffées de belle-mère sont aisément reprises par les chirurgiens pour juger la pertinence d'une intervention plutôt qu'une autre. C'est assez courant. Et là, je vais vite. Il y aurait plein de caractérisations. Il y aura ainsi de la part des médecins un certain confort à considérer les fibromyalgiques comme des falsificatrices, des râleuses ou des hystériques, des personnes ayant davantage tendance à gémir, à râler, agitées par des troubles, j'utilise leur terme, qui seraient propres à leur nature. La deuxième dimension est la conception des soins proposés. Les algologues, donc les spécialistes du soin de la douleur, après avoir priorisé la baisse de consommation médicamenteuse, prescrivent des activités physiques adaptées, ce qu'on appelle les APA, en tant que meilleure voie de rémission et telle que recommandée depuis 2010 par la Haute Autorité de Santé. Ces APA allient sport et santé. D'une part, la complexité administrative ou financière pour bénéficier de ces APA qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie rend l'accès à leurs prescriptions et à leurs dispenses difficilement possible, voire inconnu par la majorité des patientes. Donc on nous prescrit des APA qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale, qui ne s'appelle plus Sécurité sociale, et pour le savoir, il faut être sacrément informé. D'autre part, le sport santé ajoute à l'essentialisme de la santé une conception normée et utilitaire des sports, à savoir que les hommes sont destinés à affermir leur puissance, alors que les femmes sont destinées à assurer la bonne santé des travailleurs ainsi que celle de leurs enfants, ce qui les rend moins repérées, repérables, puisqu'elles sont invisibles dans l'histoire du sport. Avec le sport, le rôle des hommes et des femmes sont davantage structurés par la division masculinité, puissance dans l'espace public, féminité, service dans l'espace privé, si bien que les patientes de la fibromyalgie ne sont pas prises au sérieux par leurs soignants, parce qu'elles sont considérées comme faibles, vulnérables, inhibées et surtout n'ont pas de force. La troisième dimension est le système dominant, véhiculé par les politiques de santé et majoritairement relayé par les professionnels. Il consiste à enfermer les patients dans un état d'individu non savante, n'ayant pour aucun pouvoir sur la gestion de la maladie. Il convient alors de soutenir des victimes, en leur conseillant de cultiver leur estime de soi, de lâcher prise. On en entend, ou que, bon, voilà, que il faut qu'elles s'adaptent à leur maladie, etc., plutôt que de les considérer comme des personnes capables d'agir sur les politiques de santé. Cette logique qui fait des victimes les seules coupables structure l'état de la connaissance de la fibromyalgie. Elle est bornée à l'intérieur de frontières établies et participe d'une stratégie qui différencie ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Cette connaissance est obtenue en fonction de priorités de recherche, dépourvues de réflexivité, négligeant certaines hypothèses, excluant les savoirs produits hors de ce cadre. Le savoir médical, voulu institutionnel, rend le plus souvent inexistant tout autre savoir. Alors même que la créativité est continue chez les patientes, la très grande majorité des praticiens en manque cruellement. Ce fossé, rarement comblé, ajoute aux incompréhensions, aux privations de liberté, aux frontières entre patientes et soignants. Les apports des sciences sociales, on l'a vu ce matin aussi, donc anthropologie, philo, sociaux, histoire, sciences politiques, sont encore très peu introduits dans la prise en charge de la fibromyalgie. Or, l'étude de cette pathologie mériterait d'être enrichie d'une contextualisation sociale, historique, culturelle, politique, au moins de la douleur. Parce que la douleur, il y aurait beaucoup à dire sur son histoire, surtout en France. Donc les fibromyalgiques, même si elles sont exclues et si elles demeurent des personnes à aider ou à protéger, sont dotées d'une expertise, celle de la maladie, mais aussi des transports, du sport, du travail, de l'économie, de la culture. Par exemple, donc moi j'habite dans un désert médical, pour accéder à des soins, il me faut déployer une énergie et des moyens pour me rendre aux soins. Donc je suis assez experte en matière de transport. Je suis aussi experte en sport, donc, puisque les soins qu'on me propose, c'est de l'activité physique. Mais je suis aussi experte en travail, puisque on ne peut plus travailler comme les autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire le deuil de la capacité de travail, donc il faut s'organiser pour quand même avoir des revenus, et j'en passe, je vous passe sur la toxicité financière, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir accès aux soins parce que l'argent ne rentre plus. Ailleurs, des expériences existent qui prennent en compte les savoirs développés par les malades, notamment, on l'a vu aussi en matière de sida, de cancer et de Covid long, comme à l'Université des patients, à l'Université Pierre et Marie Curie, qui a été créée par Catherine Tourette-Turgis, ou à la chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu, créée par Cynthia Fleury. Dans ces lieux, le renforcement des savoirs du personnel soignant et la prise en compte de la situation des patients tentent de combler le vide des savoirs. Les questions de l'autonomisation, de la liberté, de la subjectivation et de la responsabilisation du ou de la patiente y sont centrales. Reste que le genre n'est pas du tout pris en compte dans les travaux de l'Université des patients et de la chaire de philo. Alors, la fibromyalgie reste encore trop tabou pour aboutir à de tels résultats, mais des pistes alternatives se profilent. Au cours de mes consultations à l'hôpital de la Timone à Marseille, un moment est apparu où les soignants ont parlé d'eux, de leur parcours, de leur vécu. Sans doute ont-ils intégré l'importance de l'échange sur la pathologie, la déhiérarchisation de l'observation et la théorie du point de vue. Ainsi, peu à peu, si les patientes et les praticiens mixent travail personnel et collectif, confrontent leurs témoignages, leurs ressentis et leurs expressions, l'équilibre connaissance-ignorance devrait être transformé et la notologie en partie rompue. Pour finir, mon dernier mot, les réflexions que je viens de vous exposer sont un extrait d'un travail plus large que j'ai regroupé dans un livre qui s'appelle « La douleur impensée, autopsie féministe de la fibromyalgie, une maladie de femme » qui vient de sortir et qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, et vous en avez quelques exemplaires à la sortie. Voilà, je vous remercie.